Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent, passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Après avoir écrit un livre fascinant, Le cerveau et la musique, il vient de publier un deuxième essai, L'amour, la haine et le cerveau. Il a fait carrière comme journaliste scientifique, il fut de l'équipe du magazine télévisé Découverte, animé par Charles Tisser, et il enseigne maintenant à l'UQAM dans le secteur des communications. Son dernier ouvrage questionne les rôles de l'amour, de la haine, à l'ère des réseaux sociaux, des changements climatiques, du terrorisme, et bien sûr de la pandémie de la COVID-19. Avec nous, Michel Rochon, c'est tout un chantier qu'on vient d'énumérer la chose.
Oui, oui, c'est une grande proposition, mais c'est un regard différent sur ce que les médias nous proposent tout autour de ces grands thèmes-là. J'ai tenté de savoir, mais pourquoi y a-t-il tant de haine et si peu d'amour? Et les neurosciences étudient actuellement comment nous nous comportons dans les médias sociaux face à la haine. Pourquoi y a-t-il tant de haine? Alors, j'ai tenté de façon la plus simple possible d'expliquer cette recherche-là et de comprendre que, vous savez, la haine, c'est pas négatif ou positif. La haine, c'est un mécanisme de survie comme l'amour. On a besoin de la haine. Il faut la haine. La haine, là, c'est quand on voit l'autre ou on voit un objet comme étant un ennemi qui potentiellement peut nous tuer. Et là, ça, c'est un mécanisme dans le cerveau. Là, il y a 5 ou 6 régions fondamentales qui se mettent à l'œuvre pour se préparer à tuer ou à détruire cet objet-là. Mais ça, c'est pour assurer notre survie. L'amour, c'est la même chose. On s'entoure des objets et des gens qui nous garantissent notre sécurité et notre survie. Et on développe de l'amour.
Oui, vous parlez longuement dans votre livre de la notion d'empathie, entre autres.
Oui, ça, c'est la solution pour moi. Moi, là, je vois actuellement, parce que là, la haine a atteint des niveaux incroyables, on n'a qu'à voir l'actualité depuis quelques années, on dirait que c'est de pire en pire. 2 choses. Il va falloir qu'on réduise notre temps passé à l'ordinateur. Je suis sérieux. Ça va, là, en Occident, là, de 6 heures à 11, 12 heures par jour, passé devant les médias sociaux et Internet. C'est intenable. Alors, on est rendu prisonnier de cette chose. La deuxième chose, c'est l'empathie. C'est ça que vous voulez me poser. Alors, l'empathie est un vieux mécanisme. Et on a isolé toutes les régions dans le cerveau. Et c'est facile, je peux l'apprendre à un enfant de 5 ans. Il y a des pays en Europe où on l'enseigne à l'école. L'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est qu'avant de déclencher une haine injustifiée, réfléchissez, servez-vous de votre lobe préfrontal et frontal et réfléchissez, qu'est-ce que l'autre pense? Qu'est-ce que l'autre ressent?
Se mettre dans la peau de l'autre.
Dès qu'on a fait ce geste, Armand, on commence déjà à baisser notre niveau de haine quand on commence à comprendre pourquoi l'autre est comme ça.
Mais vous dites qu'il y a quand même une différence au plan des genres, que les femmes auraient plus tendance à être empathiques que les hommes et que cela, ça nous vient de notre esprit, dans le fond, de sauvegarde de l'espèce, notre aspect guerrier pour assurer la survie
chez le mâle. Oui, oui, tout ça, c'est étudié. Ce n'est pas du sexisme scientifique, là, c'est véritablement étudié avec des cohortes d'hommes, femmes, et on mesure ça avec des protocoles très, très rigoureux, et on constate ça. Et c'est certain que la politique au féminin, vous allez voir ce que Kamala Harris va réussir à faire, mais vous savez que ce n'est pas gagné parce que vous mettrez 10 femmes au pouvoir que vous allez toujours avoir à travers les réseaux sociaux de haine, parce qu'il y a des réseaux sociaux globaux comme Facebook et Twitter, mais il y en a d'autres qui sont des réseaux sociaux uniquement où ces gens-là se retrouvent entre eux et créent des espèces de silos et de chambres d'écho où ils grandissent leur haine entre eux et ensuite retournent sur les grands médias sociaux et partent encore une autre fois une flambée de haine. Donc, on n'a pas... Vous savez, le cerveau humain a pris des millions d'années à évoluer. Et là, depuis 12 ans, à peine, le cerveau est branché devant un écran dans un nouvel univers. Et je l'explique dans le livre, on commence à peine à comprendre comment le cerveau va réagir parce qu'il est dans l'enfance de sa réaction face à une vie prisonnier de l'écran. Et là, ce qui lui servait de mécanisme de survie, la haine, ça l'aidait. Là, c'est devenu destructeur.
Michel, c'est fascinant ce que vous me racontez. C'est tout aussi agréable de vous entendre jouer du piano. On va vous entendre jouer Les Lettres perdues, le piano blanc. Michel Rochon, c'est votre composition?
Oui, pour un film qui s'appelle Le piano blanc de Pierre Bondoc et de Guy Pelletier. On va écouter ça.
Thank you.
Vos doigts vont sur le piano comme votre verve va sur les concepts scientifiques. Je reviens sur ce que vous disiez au niveau de notre cerveau, qui est au niveau de l'enfance, de la découverte d'un aspect inconnu, c'est-à-dire d'être devant un ordinateur. Pourtant, il y a cette notion de plasticité du cerveau, qui veut dire que le cerveau peut s'adapter très rapidement à des situations nouvelles. En voilà une qui est vraiment nouvelle. Mais on ne sait pas quelle sera la réaction du cerveau face à un état, permettez-moi l'expression, mais presque léthargique. On est fixé devant un écran sans bouger et c'est comme si on imposait à notre cerveau de ne plus bouger.
Oui, j'espère, j'ose être optimiste en disant, oui, la plasticité du cerveau va faire en sorte que nous allons évoluer avec ce nouvel outil qui, malheureusement, nous rend captifs une grande partie de notre journée éveillée. C'est triste. On va devoir s'y habituer.
Captif et parfois, on se fait aliéner par ce que l'on voit et ce que l'on peut lire sur cet écran bleu.
Oui, c'est ça. Alors donc, ce qui arrive et ce qui n'existait pas dans la réalité, c'est que ces groupes marginaux, haineux, qui représentent un très faible pourcentage de la population, maintenant sont partout, sont omniprésents sur les médias sociaux. Donc, des enfants en bas âge sont exposés à de la haine, peut-être souvent pour la première fois. Combien, pendant la campagne électorale, les Américains ont dit « Mon Dieu, mon enfant a pleuré quand il a entendu, on va le dire, M. Trump faire un discours haineux, il en a fait. » Ou quand il arrive sur Facebook puis il voit un ami haineux lui lancer un dessin assez provocant et choquant et haineux. Alors, pour la première fois, les enfants grandissent avec une plus grosse, et là, les statistiques sont dans le livre, plus grosse charge haineuse. Ils grandissent avec ça, ils sont exposés à ça. Alors, ils devront rapidement, les parents, le milieu scolaire, les amis, il faut tenter de tempérer ça. Mais je vous le dis, un des mécanismes, c'est d'y aller moins souvent. Et vous savez, si on arrête d'y aller, on va arrêter d'être exposé.
On y trouve le meilleur et le pire.
C'est ça, parce qu'il y a du meilleur, il y a des choses extraordinaires. Moi, j'ai gagné ma vie sur Internet. Toute la science est là. J'ai fait des réseaux, il y a des réseaux, mais d'amour, il y en a plein sur Internet. Par contre, trouver l'amour sur Internet, ça, j'en parle dans le livre, c'est plutôt artificiel.
Oui.
Mais les gens se retrouvent dans le positif également.
Cette façon d'exposer un peu sa haine en utilisant le réseau social, parce que c'est anonyme, ça repose aussi sur une notion de pouvoir. J'ai un ami, entre autres, qui écrit en ce moment sur le pouvoir. Et pour lui, la prémisse, c'est que toutes les relations humaines, même qui existent entre les choses, se tissent par des relations de pouvoir.
J'en parle dans le livre et j'en parlais à notre dernière émission ensemble. Henri Laborie, c'est la dominance. Pour lui, c'était là ce mécanisme neuronal fondamental de la dominance dans le système limbique. On le retrouve aujourd'hui. On a malheureusement hérité, à chaque fois que l'on est sur cette terre, dans le ventre de notre mère, on repasse à travers toute l'évolution et on construit un cerveau qui a tout conservé. Le système reptilien, le système des primates, on a tout ça un par-dessus l'autre et tous les stimuli que l'on reçoit passent par ces vieux réseaux-là qui ont des centaines de millions d'années. Et les réactions sont des réactions qui ne sont pas faites sur mesure pour régler qu'est-ce qui se passe devant un ordinateur, mais beaucoup plus qu'est-ce qui se passe dans un écosystème où on a un prédateur devant nous. Mm-hmm. On doit se défendre, on doit le tuer, on doit le manger. Alors, c'est une autre réalité. On a un cerveau qui est mal adapté pour ce qu'on fait actuellement.
Heureusement qu'il y a la musique.
Oui. Ah.
Et qu'il y a Keith Jarrett.
Ah oui.
Et qu'on peut même aller regarder au-delà de l'arc-en-ciel.
Ah, Over the Rainbow. Et oui.
Ah, la composition de Harold Arlen et Herbert Stothart qui avait été composée pour le film dans lequel jouait Judy Garland.
Absolument.
Et les paroles de cette chanson étaient de Edgar Ipsel Harbert. Mais là, on va entendre la portion sonore uniquement, mais à la manière...
Alors là, écoutez avec peu de moyens, peu de notes, comment les nuances s'installent pour nous faire vibrer. Incroyable.
Keith Jarrett. C'est vraiment beau d'écouter Keith Jarrett.
Ah, moi, c'est un baume sur mon cœur, sur mon âme.
Est-ce que, parce que vous parlez de baume, vous êtes inquiet à l'idée de voir ce qui se passe en ce moment à travers ce dont vous évoquiez, c'est-à-dire, c'est, j'allais dire, d'une certaine façon, cette paresse intellectuelle de rester figé sur son écran, de ne rien faire d'autre que d'être à la merci des commentaires des uns et des autres, ça n'apporte pas grand-chose.
Alors, c'est l'équivalent du parvis d'église que jadis, naguère, nous avions le dimanche matin où on se rencontrait, le village, et on papotait. Là, on le fait à grande échelle. On est 4 à 5 milliards. On s'est retrouvés. On s'est vus. Ce qu'on découvre n'est pas toujours joyeux. Et là, c'est
et la cathédrale qu'on fréquente n'est pas nécessairement très belle non plus.
Non, il y en a des cathédrales et toutes les religions sont là et tout est là. Donc, c'est véritablement une espèce de confrontation de la race humaine envers elle-même, mais à vitesse grand V, avec beaucoup de temps passé là-dedans. Et là, on s'engueule. Et vous savez, le niveau, moi, j'ai éliminé sur Twitter plein de monde, mais des gens connus, parce qu'ils se mettent à être agressifs envers moi. C'est une haine spontanée. C'est un ton qui s'installe.
On l'a vu, par exemple, à l'égard du phénomène de vaccination. Par exemple, on a vu celui qui fait le pharmacien, vous savez, qui s'est fait tout simplement mis au pilori parce qu'il avait osé manifester un souci à l'égard de l'importance de la vaccination.
Oui.
Et là, il y a plein de gens qui lui ont envoyé des insultes.
Oui. Alors, le mécanisme par lequel, un des mécanismes par lequel la haine est déclenchée, c'est l'ignorance. Alors, il peut y avoir une ignorance contrôlée, une ignorance spontanée, puis une ignorance construite. Alors, ce que l'on fait actuellement, c'est que des gens qui ont une certaine ignorance, on leur implante une fausse vérité. Alors, une conspiration, c'est quelque chose, c'est une solution simple à un problème complexe. C'est toujours ça. Alors, une conspiration, c'est simple, mon doux, c'est lui, c'est à cause de lui, on meurt. Bon, tu me vaccines, je vais mourir. Alors, c'est une solution simple, un problème complexe. Et là, c'est un problème d'éducation qui reste à faire. Pour tout détricoter ça, Armand, ça va prendre beaucoup d'éducation. Et moi, comme communicateur scientifique, je suis encore président de mon association. Ce que je veux, c'est d'avoir beaucoup de communicateurs scientifiques. Je demande aux scientifiques également de se mobiliser et d'aller parler de science. Parlons-en. Parlons de comment on réussit avec cette chose extraordinaire qu'est la science, comprendre des choses. Et que c'est à travers ça qu'on réussit à avoir une certaine forme de vérité, entre guillemets, tout au moins tendre vers une vérité qui va nous permettre de mieux vivre. Ils n'ont pas de vie dans la haine. Alors oui, on a encore beaucoup de travail à faire. J'ose espérer que l'humanité va se réveiller. Certains commencent à être carrément écœurés. Alors s'ils commencent à avoir une écœurée de chez certains, peut-être qu'on va commencer à réduire notre consommation de cette bête.
Et peut-être écouterons-nous davantage Jacques Brel.
Ah, il est allé au bout du monde, aux Marquises, pour retrouver sa paix.
Ils parlent de la mort comme tu parles d'un fruit. Ils regardent la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise. aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Les marquises, Jacques Brel. Ça fait du bien d'entendre Brel.
Ah, moi, il m'a beaucoup marqué. Je l'ai découvert trop tard. J'avais 20 ans. J'aurais aimé l'avoir découvert à 12-13 ans. Je ne sais pas, j'aurais passé une adolescence. Alors, j'aime ces gens comme Keith Jarrett. On parlait, on parle de Beethoven, qui ont des caractères forts, des personnalités fortes, et qui veulent changer les choses et qui veulent l'exprimer. Alors, Brel, c'est pour moi tout ça, c'est cette rage, c'est ce regard grinçant et lucide sur la société et sur l'être humain.
Alors, comme on est dans ce mouvement musical,
oui,
on peut passer tout de suite à un autre grand après Brel, Mozart.
Ah, qu'il y allait, par ironie, Mozart. Aucun, il réussissait à le faire. Oui, et je vous remercie d'avoir choisi cette pièce, car elle est jouée par ma conjointe, Claire Marchand, la femme de ma vie depuis 17 ans, avec Valérie Milo à la harpe. C'est un album des violons du roi.
Dirigé par Bernard Labadie.
Et c'est un album qui a très bien marché, parce qu'il y a là comme une chimie. Encore une fois, c'est la chimie, c'est la rencontre des êtres. Et Mozart, ce qu'il réussit à faire avec la musique, c'est de nous dire « Ah bon? Ah voilà! Ah bien oui! Allons-y comme ça! » Et moi, Mozart me donne un sourire à chaque fois.
Alors, le premier mouvement, marqué Allegro du concerto pour flûte et harpe en Do majeur, Köchel 299.
Thank you.
On a eu Brel, on a eu Mozart et on a Michel.
Bon, faut écouter. Je suis entre trop bonne compagnie, là. Je ne mérite pas ça.
Michel Rochon, qui est avec nous, qui a publié deux livres fantastiques. Le premier, c'est « Le cerveau et la musique », une odyssée fantastique d'art et de science. Et le deuxième, qui est encore tout chaud, qui porte le titre de « L'amour, la haine et le cerveau au temps des médias sociaux, du changement climatique, de la COVID-19 et du terrorisme ». C'est aux éditions Multimonde. Je vous encourage à aller vous procurer ces deux livres-là. C'est vraiment fascinant. On parle beaucoup des réseaux sociaux qui offrent un terreau fertile, justement, pour l'expression d'émotions qui sont parfois pas toujours très positives.
Non, malheureusement.
Par contre, certains vous diront... prenons l'exemple de la dernière campagne électorale américaine, où l'Amérique s'est encore une fois retrouvée divisée en deux. Peut-on dire qu'il y a 50 millions, pas 50 millions, mais 70 millions d'imbéciles aux États-Unis?
Non. Non, non, c'est ça que je racontais tantôt. Non, absolument pas. C'est que des gens qui veulent... n'oublions pas que les républicains veulent du changement comme les démocrates veulent du changement. C'est la façon de le faire et c'est les outils pour y parvenir qui sont différents. On peut les critiquer, les nuancer. Ce que cet homme-là, Trump, a fait, c'est peut-être une forme... très particulière de peut-être laisser même les deux parties tomber et de faire son propre agenda à lui. Mais fondamentalement, c'est de régner en divisant. Alors, si on divise, il y a ceux qui ont un savoir et un autre groupe qui a un autre savoir. Et le problème, il y en a un qui est plus qu'autrement scientifique et l'autre complotiste. Alors, il faut...
La division entre la connaissance et l'ignorance.
Bien, une forme d'ignorance, il y a des gens qui sont dans le Parti républicain, qui sont scolarisés, qui sortent d'Harvard, etc., mais il y en a une grande partie qui ne l'est pas. Il a gagné dans les régions rurales, où les gens avaient peut-être un niveau d'éducation moindre. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été facile pour lui et son équipe d'implanter de fausses vérités. Et ils y croient comme si c'était vrai. Et c'est très difficile de briser ce cycle une fois qu'il est installé.
Mais on le voit avec cet exemple-là, qu'avec les réseaux sociaux, avec cet écran bleu dont on parlait, il est possible et même maintenant facile de contrôler des masses.
Ah ben oui, on n'a qu'à lire Aldous Huxley. Il y a beaucoup de gens qui prévoyaient, il y a un siècle et moins, que le 20e siècle était pour mener à un siècle de dictature. Il y a eu Adolf Hitler, on ne compare pas Trump à Hitler, là. Puis il y a actuellement, et depuis une quarantaine d'années, beaucoup de dictateurs partout dans le monde. Ils le font par ces manipulations de masse-là. Trump s'en va. Trump, au moment de cette diffusion, il ne sera plus là. On le souhaite qu'il n'est pas là actuellement. Et qu'on aura un retour à une saine démocratie. Parce que ce que le cerveau est capable de vivre et veut vivre dans une saine démocratie. Il y a plus d'amour dans un cerveau qu'il y a de haine. C'est qu'on a travaillé des médias sociaux pour pousser la haine à dominer l'amour. Mais il y a plus d'amour qu'il y a de haine dans le cerveau.
Il ne faut pas.
C'est Gandhi qui le dit, je mets à l'ouverture de mon livre.
Il ne faut pas que ça devienne pathétique
Oh là 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 là, où l'avez-vous? Oui, cette œuvre de Beethoven qui a marqué mon enfance, et j'ai choisi le troisième mouvement, on l'a choisi ensemble, parce qu'il est moins pathétique que les deux premiers et qui a peut-être cet espoir dans la vie, et Beethoven était un porteur d'espoir.
Et je suis tellement heureux que vous ayez choisi cet interprète, Wilhelm Kempff.
Oui. Là,
parce que ça a été ma première découverte quand j'étais très jeune, le premier disque classique que ma maman m'a offert un jour. L'interprète au piano, c'était Wilhelm Kempff.
Oui.
Un pianiste majestueux.
Oui, qui est descendant de la grande école de Beethoven.
Thank you.
Beethoven, la pathétique. Mais on va se quitter avec une note positive,
oui,
Michel.
Allons-y.
Si je vous dis un mot, vous me dites rapidement qu'est-ce que ça évoque pour vous.
Parfait.
Alors, si je vous parle de couleur.
Automne.
Croyance.
Amour.
Vie.
Espoir.
Raison.
Toujours.
Oh, alors je vais vous demander le mot demain.
Aujourd'hui.
C'est merveilleux. Alors, tout est dans le demain qui est aujourd'hui,
oui, oui.
Et qui est porteur d'amour.
Tout le temps.
Tout le
C'est
temps.
Ce que j'aimerais, moi, en tout cas, laisser comme marque.
Est-ce qu'il y aura d'autres livres comme ceux que vous venez de publier?
Oui, j'en ai deux ou trois autres que j'aimerais écrire avant d'arrêter.
Et qui portent toujours sur le cerveau?
J'en ai un sur le cerveau et ensuite j'ai des projets de romans aussi.
Oh, intéressant. Alors, je le répète, L'amour, la haine et le cerveau, ainsi que Le cerveau et la musique, c'est aux éditions Multimonde. On peut se procurer cela dans toute bonne librairie, un peu partout. Et puis vous, vous continuez d'enseigner à l'UQAM?
Le journalisme, oui, télévisé, j'adore. Les étudiants, une belle relève.
Excellent. Et merci beaucoup pour toutes ces années que vous nous avez données
comme
chroniqueur scientifique, avec un métier que vous avez exercé avec une grande rigueur pour
Merci.
Notre plus grand plaisir et pour, j'allais dire, augmenter la plasticité de notre cerveau.
Dans le bon sens, oui. Merci, Armand.
Merci. On va se quitter, Michel, avec une belle pièce musicale que
oui.
vous nous proposez aussi. C'est une
oui.
de vos œuvres.
Oui.
Clair-obscur?
Absolument. Claire étant ma conjointe, et c'est lumineux, obscur, les deux dans l'œuvre. Alors, je lui dédie cette pièce.
Parfait. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Valérian Fournier, Armand Dubois, l'animation et réalisation. Et puis, au plaisir de vous recevoir à nouveau, Michel.
Bien, merci. C'est un grand plaisir, Armand.
Et de même.
Thank you.